L'actualité des Alpes du Sud ne parlait pas encore de déconfinement, mais d'allègement.
Le chef de l'État a pris la parole devant les Français hier soir pour fixer la feuille de route face au coronavirus. Si vous pourrez envisager les fêtes de Noël en famille, vous ne pourrez par contre pas les passer dans les stations de ski. Quant au commerce, ils rouvriront dès ce samedi, sauf les restaurants. Il faudra encore attendre la fin janvier.
Certains n'ont pas attendu ces annonces pour s'organiser.
Et soutenir leurs commerçants restés fermés. Nos commerces sont essentiels. C'est un mouvement qui a été fondé dans les Alpes d'Haute-Provence. Il s'agit d'une plateforme explication dans ce journal.
Politique, Delphine Bagarry vend debout contre la loi sur la sécurité globale.
La députée des Alpes d'Haute-Provence vote contre, notamment contre l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre et qu'elle juge attentatoire à nos libertés.
Et puis c'est le dossier alpin, c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes.
La violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, mais aussi l'une des moins signalées, et le confinement aura eu un effet, explication dans cette édition météo.
Avec un temps encore bien ensoleillé, aujourd'hui petit voile d'altitude, parfois épais au lever du jour, mais qui va laisser place à un ciel plus bleu cet après-midi sur nos deux départements. Côté température, les maxis aujourd'hui de 8 jusqu'à 13 degrés. Commerce, déplacement, culture, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a dévoilé hier soir la feuille de route face au coronavirus.
Bonne nouvelle, vous pourrez fêter Noël en famille. Mauvaise, par contre, vous ne pourrez pas aller skier. Dans le détail, dès ce samedi, on ne parle pas de déconfinement, mais de première phase d'allègement. Les déplacements soumis à attestation restent la règle, mais les commerces pourront rouvrir jusqu'à 21h. Les promenades et activités physiques en extérieur sont autorisées dans un rayon de 20 km et pour 3h. Les offices religieux pourront reprendre, mais avec une jauge de 30 personnes autorisées, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la conférence des évêques de France et localement Monseigneur Xavier Mal, évêque du diocèse de Gap et d'Embrun. Ils estiment l'annonce non conforme à ce qui avait été demandé et inapplicable. Une proposition avait été faite d'assurer un espace de 4 mètres carrés autour de chaque fidèle et de ne remplir les églises qu'au tiers, ce qui a été rejeté par l'exécutif. La fin du confinement sera sonnée le 15 décembre, mais à une condition fixée par Emmanuel Macron, que le niveau de contamination atteigne 5000 cas par jour au moins. Le pays se dirigera alors vers un couvre-feu de 21h à 7h du matin, sauf pour les réveillons de Noël et du jour de l'an. Enfin, c'est à partir du 20 janvier que le gouvernement reverra sa feuille de route pour valider ou non l'ouverture de tous ceux qui seront restés clos, à savoir les restaurants ou encore les salles de sport. Les cours reprendront intégralement en présentiel au lycée, puis 15 jours plus tard dans les universités.
En revanche, Noël au pied des pistes de ski, va falloir oublier l'idée.
Les stations de ski ne pourront ouvrir que pour les fêtes de fin d'année. Après plusieurs discussions engagées cette semaine avec l'exécutif, elles avaient l'espoir douché hier soir par Emmanuel Macron.
Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées très prochainement, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. La logique de toutes ces décisions est la même. Au maximum, limiter toutes les activités qui multiplient les rassemblements, conduisent les gens à se rassembler sans protection dans des lieux clos et permettre progressivement de rouvrir les activités où l'on peut se protéger et où les distances, où les gestes barrières sont possibles.
Une décision qui fait dire à Jean-Michel Arnaud, le sénateur des Hautes-Alpes, que son département est en berne. La confiance ne se construit pas de cette manière, estime-t-il.
Les réactions politiques se sont succédées hier soir après ces annonces.
Alors qu'il attendait un cap, il estime qu'il est fixé. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, salue ces annonces. Une bonne nouvelle pour l'élu qui se tourne néanmoins vers l'exécutif pour une réouverture rapide des restaurants. Elle ne peut attendre 2 mois. Mais certains n'ont pas attendu pour épauler le tissu économique local. À l'image du mouvement, nos commerces sont essentiels. Il veut devenir une plateforme d'échange entre les commerçants et la population des Alpes de Haute-Provence. Un outil de référencement pour ceux qui sont administrativement fermés, mais toujours en activité. Écoutez, Najia Amri, elle est initiatrice du mouvement.
L'objectif initial, c'était de favoriser donc le commerce local et tenter de le maintenir malgré la crise. Et dans cette optique, ben voilà, en association avec les commerçants, on organise des petits jeux concours où les participants, ils peuvent gagner des cadeaux, des bons d'achat. Là, le tout premier, c'est un petit bon cadeau de 50 euros à valoir dans un institut de beauté à Saint-Auban. Pour le moment, on a référencé plus d'une cinquantaine de commerçants et on a touché à peu près 4000 personnes dans le département. On est content, donc on continue sur notre lancée en espérant que ça puisse impacter tout le monde. On aimerait que ça se maintienne et plus forcément donc pour les commerces fermés en espérant que tout se réouvre, mais on aimerait que ça continue.
Des propos recueillis par Christophe Lourenceau.
Un mot de politique avec ce texte qui fait bondir certains députés à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur la sécurité globale.
Un texte qui n'obtiendra pas le vote de Delphine Bagary, la députée des Alpes-de-Haute-Provence, anciennement La République En Marche, juge cette proposition attentatoire à nos droits fondamentaux. En ligne de mire pour la parlementaire, l'article 24 qui pénalise la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Si selon elle, le signal politique est alarmant, c'est parce que la députée estime que l'on s'attaque à la liberté de la presse. Les journalistes vont s'auto-censurer pour éviter une garde à vue préventive, explique-t-elle. Delphine Bagary prend l'exemple de la diffusion des images de l'évacuation violente d'un camp de migrants en début de semaine à Paris. Cela démontre à quel point l'accès à cette information est essentiel. Elle a donc voté contre cette proposition de loi.
Le dossier de la rédaction, depuis le début de ce journal, une femme s'est fait violer en France et depuis le début de la semaine, une autre a péri sous les coups.
C'est une image éloquente de ces chiffres. On compte un viol toutes les 5 minutes en France et un féminicide tous les 2-3 jours. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, une journée qui a été instaurée en 1999 par l'ONU. La violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, mais aussi l'une des moins signalées en raison de la crainte de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Les associations sont aujourd'hui d'accord. La violence à l'égard des femmes englobe les formes de violence physique, sexuelle, psychologique. Localement, la problématique se développe. Dans les Alpes-de-Provence, en 2018, 350 victimes s'étaient déclarées. Elles étaient 370 l'an dernier. Mais en 2020, Laetitia Bidalo le craint, le chiffre des 400 victimes sera dépassée. Elle est la directrice du CIDFF 04, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Alpes-de-Haute-Provence.
On est sur une société violente et on va le retrouver au sein du couple et à destination des enfants, effectivement.
Toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernées, toutes les classes sociales sont concernées.
Oui, je vous confirme. En fait, on pourrait très bien se dire que le schéma classique, c'est une famille monoparentale avec un ex omniprésent qui vient chercher les enfants et qui exerce encore de la violence sur madame. Non, ça touche toutes les sphères sociales de la société et toutes les cultures aussi.
Des chiffres qui pourraient s'envoler face à la crise sanitaire dans les Alpes-de-Provence, car c'est devenu la pandémie parallèle qui se développe. Tous les types de violences contre les femmes et les filles, et surtout la violence domestique, se sont accrues avec un confinement amplificateur des tensions. Laetitia Bidalo.
Tout le monde est à peu près au fait de ce qui se passe pour qu'on l'ait tous vécu. Il y a un huis clos familial déjà, c'est quelque chose d'un peu inédit où il est compliqué de sortir et en plus de ça, on va rajouter l'école à la maison et la responsabilité de la scolarité de nos enfants. Et ça va être en plus du télétravail des marqueurs qui vont aggraver les situations de violence et de tension dans les familles. Il y a eu un effet, et notamment sur les nouvelles situations. En fait, on distingue deux typologies d'accompagnement. Un, les accompagnements qu'on a en suivi, donc qu'on va reprendre de l'année 2019 et qu'on va continuer à suivre en 2020. Et donc là, sur la période 2019 comparée à 2020, on est déjà sur plus 30% de victimes qui ont besoin d'un suivi. En 2019, par exemple, c'était 52 victimes sur la même période que la période de confinement, donc il me semble du 16 mars au 18 mai. En 2020, pendant la période de confinement, 70 victimes auront besoin d'un suivi. Et pour les nouvelles situations, donc les situations où les personnes viennent se déclarer et où les forces de l'ordre font un signalement, par exemple, on va être sur plus 70% sur la même période. Donc en 2019, on aura répertorié 22 nouvelles situations contre 39 en 2020. Donc plus 70% d'augmentation de nouvelles situations de violence conjugale.
Et sur les Hautes-Alpes, la lutte contre les violences familiales et intraconjugales reste une priorité majeure du parquet. Aurore Valory.
En novembre 2019, un protocole a été signé pour permettre une meilleure prise en charge des victimes de violences conjugales. Un an après, le bilan est positif, souligne le procureur de la République de Gap, Florent Crouy.
Il y a une vraie amélioration de la prise en charge des victimes. Ça, c'est le point le plus important et le plus net. Les carences, elles étaient là. Elles étaient souvent que la victime se présentait dans un service de commissariat, de gendarmerie, pas toujours bien reçue, pas de plainte, des mains courantes. Donc, vous savez que maintenant, la main courante est prohibée avec ce protocole. Il y a une vraie qualité d'accueil, parce que les policiers et les gendarmes sont aussi beaucoup plus formés, beaucoup plus sensibilisés.
Grâce au protocole mis en place il y a un an, les coordonnées de chaque victime qui se présente au commissariat ou à la gendarmerie sont transmises à l'association Mediavic 05. Cette association d'aide aux victimes rentrera alors en contact avec la personne. Les victimes sont donc mieux prises en charge selon le procureur.
Aujourd'hui, toute victime qui se présente dans un service de police gendarmerie a un vrai temps d'écoute et une vraie compréhension de la posture dans laquelle elle se trouve. On ne souhaite pas forcément déposer plainte, mais à partir du moment où on franchit la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, c'est qu'on souhaite révéler quelque chose. L'apport de ce protocole, c'est que dans la foulée de la présence de cette victime, il y a une audition très complète qui est prise et on actera après en procédure s'il y a une volonté de déposer plainte ou pas.
Entre janvier et novembre, en zone gendarmerie, 297 interventions pour violences intrafamiliales ont été menées. 93 plaintes ont été déposées. Sur la même période, en 2019, on comptait 249 interventions et 92 plaintes. Augmentation également en zone police, puisque l'an passé, jusqu'au 31 octobre, 121 interventions avaient été prises. Il y en a 157 cette année. Alors, le confinement a-t-il joué sur le territoire haut-alpin ?
L'augmentation des violences intrafamiliales que nous avons constatées au niveau national est un peu moins ressentie au niveau départemental. Elle a été de façon surprenante quasiment pas présente sur le premier confinement. On la retrouve un peu plus sur le deuxième confinement, alors que pourtant il est un peu moins strict. On constate notamment en zone police une véritable, je ne parle pas d'explosion, mais augmentation significative de ces faits-là depuis le mois dernier. Une augmentation également en zone gendarmerie, mais un peu plus légère que celle constatée en zone police.
Le procureur rappelle qu'une augmentation des chiffres ne veut pas forcément dire une progression des faits. Ils peuvent être le signe d'une libération de la parole après des mouvements comme MeToo et d'une meilleure prise en charge des victimes.
Merci Aurore. Notez que depuis un an, une permanence est tenue par le CIDFF au sein du commissariat de Gap. Un jour par semaine, les femmes victimes de violences ou les témoins peuvent contacter le 3919 du lundi au samedi de 8h à 22h. Ce numéro est gratuit depuis un poste fixe. Il est invisible sur les factures.
Ils vont rendre hommage à leurs frères d'armes tombés au Mali.
Le 4e régiment de chasseurs à Gap commémorera aujourd'hui le capitaine Romain Chaumel de Jarnieux et les maréchaux des logis Alexandre Protin, Antoine Serre et Valentin Duval qui ont perdu la vie aux côtés de 9 autres militaires français lors d'une opération de lutte contre le terrorisme. C'était il y a un an. Ce mercredi, la cérémonie à huis clos sera présidée par le général Hervé de Courrèges, commandant la 27e brigade d'infanterie de montagne. Le nouveau monument aux morts du régiment sera inauguré. Du fait du contexte sanitaire, seuls les membres du régiment et quelques invités seront présents, dont le chanteur Tibbs. Il avait prêté sa voix au clip Hommage et on se souviendra.
On était des soldats formés pour le combat. On était fiers gens, amoureux de nos montagnes. Et on se souviendra, la 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 la. La 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 la, entre nous c'est comme ça. La 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 la, la 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 la, et on continuera.
La 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 la, la 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 la.
Le chanteur interprétera d'ailleurs ce morceau en live accompagné de sa guitare. Notez que la cérémonie sera diffusée sur les réseaux sociaux, YouTube et possiblement Facebook. Elle débutera dès 17h55.
Un mot pour finir sur le Vendée Globe.
Romain Attanasio est toujours 17e. Il a fait face à deux jours compliqués et un vent instable. Quant à sa jambe, elle cicatrise. Et puis Damien Seguin reste à la 12e place. À l'avant de la course, l'anticyclone de Sainte-Hélène donne du fil à retordre aux Foilers, ce qui lui permet de resserrer l'écart. Damien Seguin qui a pu faire quelques pas de danse sur le pont de son voilier hier. C'est une vidéo à retrouver sur alpe1.com.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.